Comme hier matin, nous avons deux textes à partager en introduction à ce temps de réflexion. Le premier dans le livre du Deutéronome, donc cinquième livre de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 29, dans le cadre du renouvellement de l'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël, versets 19 et 20 de Deutéronome 29, versets 19 et 20, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. » Dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, Luc chapitre 15, la première partie d'une des plus célèbres paraboles, celle du fils perdu, prodigue et perdu. Luc 15, versets 11 à 24. Luc 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche ou dans le dérèglement. C'est un mot un peu particulier ici, dans le désordre, mais pas uniquement dans la débauche au sens sexuel. Il y a un autre mot qui parle du dérèglement de la sexualité, qui a donné le mot pornographie en français. Ce n'est pas celui-ci, n'est-ce pas? C'est vraiment le désordre dans tous les domaines de la vie. Il a jeté son argent par les fenêtres et fait toutes sortes d'autres choses. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en surabondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez-le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons donc, hier matin, posé la plus belle base qui soit à toute notre construction biblique sur ce beau thème, fondamental aussi, du pardon. Dans cette introduction générale, nous avons fortement mise en évidence cette constatation, et dans les Écritures, et dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, dans nos vies même, que Dieu aime pardonner. Et que Dieu même, justement, pardonne plus volontiers qu'il ne condamne. Nous avons remarqué dans Exode 34 que les générations visées par sa bienveillance sont bien plus nombreuses que celles touchées par sa colère. Quelqu'un a écrit très justement, le pardon n'est pas une simple concession accordée suite à notre requête, mais le libre jaillissement de l'amour divin. Dieu désire pardonner. Sa préférence va au pardon. Et lorsque Dieu ne pardonne pas, ou qu'il ne pardonne plus, c'est qu'il y a crise, et qu'il y a crise grave, dramatique. Nous l'avons senti, perçu, sans le développer, dans le premier texte lu tout à l'heure de Deutéronome 29, versets 19 et 20, qui d'ailleurs, disons-le, était comme une suite s'inscrivant tout à fait dans la logique du dernier cantique que nous chantions juste auparavant. Nous allons ce matin faire connaissance de Monsieur Narcisse. Monsieur Narcisse. Connaissez-vous Monsieur Narcisse? Bien entendu, Narcisse ne signe pas ses œuvres et éventuellement ses écrits, ses réalisations de cette manière dans les Écritures. Le Narcisse tel que nous le connaissons n'appartient pas à l'origine à la tradition biblique, mais à une tradition païenne. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle la mythologie grecque et il fait référence à un jeune homme qui était très célèbre dans la légende de ce monde antique grec, très célèbre pour sa beauté. À la grande différence de bien des hommes, conscients de leur bonté quand ils sont beaux, bien entendu, lui était insensible à l'amour des femmes. Il était insensible à l'amour passionné d'une déesse célèbre. Il était insensible à l'amour d'autres nymphes et de mortels. Donc il faisait pleurer de nombreux cœurs épris de sa beauté et il désespérait bien des femmes. Et cela eut l'art de déplaire à l'une des divinités de cet immense panthéon grec qui décida de le punir. Et pour le punir, elle l'envoya donc vers une fontaine où, regardant l'eau, il découvrit un visage tellement extraordinaire, mais tellement beau, que il fut désespéré en languissant devant son idole insaisissable. Si bien que, et là, les versions divergent, même dans la mythologie grecque, qui est parfois très confuse à cet égard. Dans un cas, il est dit qu'il mourut là, au pied de la fontaine. Il est dit aussi qu'il s'y noya, étant déséquilibré par son amour passionnel. Il est aussi question parfois de sa sœur jumelle, dont il crut voir le visage dans l'eau. Et cela provoqua sa propre mort, parce qu'elle-même avait connu prématurément la mort. Bref, peu importe. Narcisse, un homme épris de sa beauté, et vous savez que le Narcisse porte son nom, puisque Semble-t-il, encore dans la mythologie, c'est un Narcisse qui a poussé à l'endroit où il rendit son dernier soupir. Notre Narcisse, vit aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il appartient à l'Antiquité biblique, mais comme nous allons le voir, qui est d'une réalité d'aujourd'hui impressionnante. Il est un des nombreux fils de David, issu de son mariage avec Maaka, fille d'un roi païen de Syrie. Soyez gentils, parce que j'en entends qui soufflent. Ne soufflez pas, vous n'aidez pas les autres à chercher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le but, c'est d'apporter des éléments dans ce portrait robot pour que la police puisse éventuellement mettre la main sur cet individu s'il est coupable de quelques méfaits. Son nom, et cela précise un peu le personnage, signifie « père de paix ». C'est donc un prénom que j'aurais aimé porter, mais je bénis Dieu de ce que mes parents ne l'aient pas choisi pour moi, parce que il est des noms difficiles à porter. Et pour lui, il semble que la difficulté ait été particulièrement grande, puisque toute sa vie s'inscrivit en contradiction avec ce beau nom. Il n'a jamais vécu en harmonie avec lui. Sa voix a été celle de la haine, celle des intrigues, du complot, du meurtre, de l'impureté. J'en passe, parce que nous pourrions allonger la liste. Mais c'était un Narcisse. C'était un Narcisse très, très conscient de sa beauté. Un très bel homme. Et un très bel homme qui prouvait son narcissisme particulièrement élevé, puisque sa chevelure se développait très fort tout au long de l'année, et qu'il tenait d'une part à se la faire couper. Il était à la mode de 2002, puisqu'il se promenait pendant un certain temps rasé, n'est-ce pas, ayant fait tomber sa belle chevelure et ayant pris soin, comble du narcissisme, de la faire peser par son coiffeur. Parce qu'il savait que cela allait peser lourd. Je ne sais pas si ensuite il marchandait sa chevelure au poids pour qu'on puisse en faire des perruques. Toujours est-il que sa chevelure pesait environ 2,5 kg lorsqu'elle était sur la balance. Alors la prochaine fois que vous irez chez le coiffeur, ou que comme moi vous vous ferez couper les cheveux par votre cher conjoint, mon épouse fait ça depuis des années et ça ne se termine généralement pas trop mal, et c'est ce qui me permet de constater que, franchement, pour arriver à 2,5 kg, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, et c'est même trop tard, puisque ça commence à diminuer de plus en plus sensiblement, même si c'est assez tardif chez moi par rapport à d'autres, et je ne viserai personne, bien entendu. Il était beau, et pour cela, comblé d'éloges, c'était un orgueilleux fini. Vous savez de qui il s'agit, bien entendu, parce que certains d'entre vous brûlent et sont à la limite de l'infarctus, tellement le taux d'adrénaline a monté peu à peu, n'est-ce pas? Il s'agit de notre, on va dire quand même, hein, de notre ami Absalom. Absalom. Et nous venons de faire allusion à 2 Samuel 13, ou 2 Samuel 8, 14, même verset 25-26, nous avons un portrait rabassé du personnage, une petite carte d'identité. Il n'y avait pas un homme, 2 Samuel 14, 25, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, ou beau et pour cela comblé d'éloges. depuis la plante des pieds. On est compte, hein? Quand on allait sur la plage, les gens étaient émerveillés par la plante de ses pieds. Enfin, c'est une manière très littérale de comprendre le texte, hein? Jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 sicles poids du roi, soit près de 2,5 kg. À part cela, et je pense qu'il en était très conscient, c'était un homme très doué pour les relations publiques. Un politicien de grande envergure qui aurait fait feu de tout bois en utilisant les médias d'aujourd'hui, parce que manifestement, je pense que les politiciens d'aujourd'hui devraient, ils le font d'ailleurs, s'inspirer de son habileté dans sa propre campagne électorale, puisqu'il est question d'une sorte de campagne électorale qui ne va pas déboucher sur une élection, mais sur un coup d'État, qui heureusement avortera. Dans 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1er, 2 Samuel 15, verset 1er, « Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. » Alors imaginez les méthodes modernes qui remplacent les chars et les chevaux. Pour les uns, c'est le jet qui va de ville en ville. Ça s'est fait dans nos grandes campagnes qui nous ont abreuvé de leurs histoires durant les mois écoulés en France. Pour d'autres, c'est le bus vert écologique qui parcourt toute la France, etc. N'est-ce pas ? Il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte royale, mais qui était aussi la porte vers laquelle se dirigeaient tous ceux qui avaient des requêtes, des réclamations à formuler, qui étaient en procès, etc. Donc un lieu extrêmement important. Il savait repérer les endroits stratégiques, comme nos récents candidats à la présidence de la République, en tout cas pour ceux qui avaient leur siège à Paris, et qui tous les deux avaient très soigneusement choisi le secteur de Paris dans lequel ils allaient implanter leur quartier général. Absalom connaissait déjà tout ça, sans avoir comme conseiller certains des grands conseillers des futurs présidents de cette année. Chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait, disait « Et de quelle ville es-tu ? » Quelle habileté ! Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », ça crée déjà un courant, hein, on aime, hein, c'est une des premières choses qu'on fait quand on arrive ici à Isenflou, hein. « Ah, d'où venez-vous ? » Et on jette des ponts de cette manière, hein, des ponts d'amitié, de sympathie, parce que dans ce monde qui est devenu si petit, je connais, hein, il avait l'art consommé de mettre les gens dans sa poche en les rejoignant sur le terrain de leur tribu. Ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, mais qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Vous voyez, ce sont les promesses électorales dont on nous rebat les oreilles. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Là encore, ça me fait penser à tous ces bains de foule. Il faut toucher le maximum de mains, donner des bisous à tous les petits enfants qui sont brandis à portée des lèvres, etc. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom savait combien il est des cordes qui vibrent et qui sont sensibles à certains types d'approches. Nous avons encore au chapitre 18 un tout petit flash intéressant, chapitre 18, verset 18, puisqu'il nous est dit que de son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Alors, tout d'abord, une petite précision pour ceux qui seraient allés en Israël. Ce monument dont il est question dans le texte ici n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le monument d'Absalom, que l'on peut voir généralement du haut de Jérusalem. Ça n'a rien à voir. Hein. Il est d'ailleurs question d'un monument qui a une forme tout à fait différente du monument actuel, puisque le texte hébreu le présente comme une main. Une main qui était dressée, n'est-ce pas, taillée éventuellement dans le roc ou fabriquée, n'est-ce pas, et qui était l'équivalent de nos arcs de triomphe de l'Empire romain ou reproduit avec Napoléon et d'autres personnages et qui sur lesquels vous avez des séries de noms de personnages qui ont participé aux grandes batailles, qui sont morts au champ d'honneur, ou encore des séries de lieux qui sont autant de lieux de grandes victoires remportées par ces personnages. Donc il avait tenu de son vivant à perpétuer son nom et sa mémoire. Peut-être avait-il peur qu'on l'oublie, comme souvent l'orgueil nous y conduit, donc on prend des précautions. Si jamais personne n'écrit ma biographie quand je serai mort, eh bien je vais écrire une autobiographie, ce qui permettra de mon vivant déjà de faire de la publicité quant à la beauté de ma personne. Alors, ce texte peut apparaître en contradiction avec ce qui est dit au chapitre 14 et au verset 27. Nous avons lu les versets 25 et 26, mais au verset 27, il est précisé qu'il naquit à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Or, nous venons de lire que la raison, ou une des raisons pour lesquelles Absalom s'est fait construire un monument, une main, c'est qu'il n'avait pas de fils. Ce qui laisse entendre, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures, ce qui laisse simplement entendre que certainement cette démangeaison d'avoir un monument à sa gloire s'est produite très tôt dans sa vie, alors qu'il n'avait pas encore de fils et que les fils sont venus après. Hein, l'orgueil lui démangeait très tôt dans sa carrière. Il y aurait d'autres interprétations possibles, mais il semble que ce soit la plus simple. En tout cas, un homme conscient de sa beauté, de ses possibilités, dévoré d'orgueil, ambitieux. Et dans un sens, quoique ce ne soit pas très flatteur pour chacun d'entre nous, moi le premier, je suis heureux que nous commencions par souligner le drame de l'orgueil. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler du pardon sans évoquer notre problème fondamental qu'est l'orgueil. Nous allons croiser sa route tout au long de nos prochaines études. Nous serons confrontés avec, ceux qui me connaissent savent ce que je vais dire, avec notre hippopotame moi. Le mot n'est pas de moi, il est de la fille du fondateur de l'armée du salut. Le général Booth avait une fille, la maréchal Booth, qui est venue d'ailleurs ici en Suisse hein, aussi, et c'était une de ses expressions favorites, l'hippopotame moi. Et cet hippopotame moi a fait dire à ce prince des prédicateurs que fut Spurgeon, ces quelques mots, nous autres humains sommes nés vantards. Il semble que quelque chose dans notre patrimoine génétique nous incite à l'orgueil. C'est comme si, pour flatter notre ego, notre moi, nous avions besoin de nous glorifier de quelque chose. C'est pourquoi nous tirons fierté de notre éducation, de nos biens, de nos succès, de notre réputation et même de notre piété. Nous avons du mal à mettre en pratique le dicton de Spurgeon, « Ne vous enorgueillissez pas de votre race, de votre face, de votre place, ni de la grâce. » C'est beau, hein? On le relit, hein? « Ne vous enorgueillissez pas de votre race, de votre face, de votre place, ni de la grâce. » Et les rabbins, dans l'histoire du judaïsme, avaient des formules parfois délicieuses, faciles à croquer et à retenir. Et l'un d'entre eux, de dire, mais savez-vous pourquoi l'homme fut créé le dernier jour, le sixième ? Pour que, si l'orgueil le prend, on puisse lui dire, dans la création, le moustique t'a précédé. Voilà pour le premier personnage de notre histoire. Mais il y en a d'autres. Il y a ensuite un demi-frère d'Absalom. Un demi-frère parce que c'était l'époque des harems, où harem a succédé une forme moderne de harem que nous connaissons tous, et là, heureusement pas dans notre expérience, mais simplement par tout ce que nous voyons se déployer autour de nous dans la désagrégation des valeurs familiales, dans le morcellement de la famille, n'est-ce pas ? Et nous retrouvons aujourd'hui exactement des problèmes du même type que ceux qui existaient dans les harems royaux et princiers, comme nous allons le voir. Et donc, dans le cadre de ce harem, Absalom avait un demi-frère, que je viens de signaler comme s'appelant Amnon, un demi-frère qui était en fait l'héritier présomptif du trône. Il était celui qui devait monter, à vue humaine, sur le trône en tant qu'aîné, Amnon. Et Amnon déshonore, dans ce chapitre 13, une des sœurs d'Absalom, c'est-à-dire une sœur issue, un enfant issu de la même mère qu'Absalom, donc avec des liens particuliers, parce que les degrés dans les liens des enfants nés des harems étaient extrêmement importants, puisqu'il y avait une énorme rivalité entre ces femmes et entre les enfants qui naissait de toutes ces unions. Et donc il y a là quelque chose d'absolument odieux, une situation de viol caractérisée avec manipulation même, et avec ce verdict qui tombe au verset 15, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la teneur, la nature d'un tel amour, pour qu'il passe si vite à une haine aussi terrifiante et méprisante. Et donc Absalom va constater, il va constater tout simplement parce qu'il découvre sa sœur, Tamar, complètement brisée dans ce mépris ostensible et cruel qui vient de quitter la tunique de sa virginité de jeune fille, n'est-ce pas, pour endosser le vêtement qui signifiait que l'homme était passé par là. Et donc elle hurle sa douleur et ses terribles blessures, et finalement donc Absalom découvre la chose, verset 20, et lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Nous lisions donc jusqu'au verset 22 de 2 Samuel, chapitre 13. Et là, la douleur, parce qu'il y a aussi une douleur chez Absalom, la douleur va donc s'infecter de haine, d'autant plus qu'Absalom constate que son cher père, le roi David, fait preuve d'une mollesse absolument incroyable devant un fait aussi grave. Nous connaissons quelque peu la raison de cette mollesse, puisqu'il faut savoir que le chapitre 13 commence par deux petits mots très importants, toujours importants dans les Écritures, après cela, après ces choses, indication, panneau de signalisation mis dans les Écritures par le Saint-Esprit pour nous rendre attentifs au fait qu'il y a une relation de cause à effet entre l'événement passé et ce qui va se dérouler sous nos yeux. Et bien évidemment, tout ce qui se passe dans le cadre des chapitres 13 et 14, c'est une conséquence de cette chute tellement douloureuse de David dans l'adultère et le crime avec Bathsheba, puis avec le mari trompé. Et le roi David est en train de vient de perdre toute une partie de son autorité royale. Et donc dans une situation extrêmement difficile, parce que s'il voulait réagir comme il le tend de doit en tant que roi et juge, devrait sévir selon la loi. Mais il risquerait de s'entendre dire « Écoute, qu'est-ce que tu as encore à nous juger, toi qui viens de te conduire d'une manière absolument abominable ?» Donc, Absalom est bouleversé à quelque part par cette faiblesse royale, et c'est d'autant plus intéressant, même si nous ne devons pas donner à ce que je vais dire la même valeur que nous donnons au texte inspiré, mais toutefois, il est remarquable que certaines versions anciennes, s'appuyant sur un manuscrit hébreu, sur le texte des Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, ou encore la Vulgate latine, qui a été faite bien sûr beaucoup plus tard, dans plusieurs versions et textes anciens, il y a un additif au verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité, et il n'affligea pas Amnon, car il l'aimait comme étant son fils aîné. On ne sait pas pourquoi il y a ce petit ajout. Nous ne sommes pas forcés d'y croire, mais je ne vois pas pourquoi il aurait été mis là simplement gratuitement. Il se pourrait en effet qu'un copiste à quelque part ait fait un commentaire, parce qu'il connaissait des éléments que nous ne connaissons pas, qui ne nous sont pas nécessaires, on peut s'en passer. Mais il vaut la peine de souligner, de signaler ce petit ajout. Il n'affligea pas Amnon, car il l'aimait comme étant son fils aîné. Et donc, voyant l'état de honte et de détresse, de désespoir de sa sœur Tamar, il développe une haine profonde, mais comme c'est un fin politicien, qui a l'art de porter le masque, il dissimule soigneusement sa haine pendant 2 ans. Il met manifestement dans le secret de sa haine quelques confidents soigneusement triés sur le volet, mais enfin tout cela ne transpire pas au-delà de ces quelques confidents. Et au bout de 2 ans, il met en branle sa stratégie perfide et diabolique pour régler ce problème, pour apaiser sa propre haine, en faisant assassiner le coupable. Et nous avons donc, à partir du verset 23, tout le détail à cet égard, n'est-ce pas, où finalement quelqu'un se charge d'assassiner le coupable. Et aussitôt après, il s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il a quand même un peu peur que le courroux de David, le roi, se manifeste. Et il s'enfuit chez son grand-père maternel en Syrie. Ceci nous est dit Au verset 37, Absalom s'était enfui, il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Geshur. Il est là donc, apparemment, à l'abri. Alors nous avons vu Absalom, nous avons vu Amnon et Tamar, nous arrivons à David, dont nous avons déjà dit quelques mots. Alors tout d'abord, David aime profondément Absalom. Il semble que d'une manière toute particulière, la fibre paternelle de David est beaucoup vibrée sentimentalement pour Absalom. Au point que même quand Absalom va comploter contre lui, va provoquer une insurrection contre l'État, va devenir même virtuellement parricide, coupable en pensée de l'assassinat de son père, il n'a pas pu le réaliser, mais c'était tout comme, David donnera pourtant l'ordre aux officiers de l'armée, dans le chapitre 18 au verset 5, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom ». N'est-ce pas, quand les soldats de David, avec à leur tête les principaux généraux, dont Joab, sont sur le point de partir pour poursuivre Absalom et tous ceux qui se sont révoltés avec lui, il prend soin, David, chapitre 18, verset 5, de donner vraiment officiellement, publiquement, cet ordre à Joab, Abishai et Ittai, pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Finalement, Absalom va être assassiné, parce qu'il l'a encore, il y a toutes les rivalités possibles et imaginables, et Joab va se charger de faire exécuter Absalom, dont les cheveux sont entrelacés dans les branches d'un arbre, n'est-ce pas, d'un térébinthe. C'est aussi une séquence très douloureuse de cette histoire. Et puis, bien sûr, il faut aller apporter la nouvelle au roi David. Et quand finalement David apprend que Absalom vient de mourir, il est dit dans le tout dernier verset, chapitre 18, verset 33, que le roi saisi d'émotion, monta dans la chambre, au-dessus de la porte, et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » David ne peut plus se contenir, je dirais presque qu'il est à la limite de la divagation dans ce qu'il dit. Hein. Il laisse échapper de son cœur des pensées qui montrent à quel point sa douleur est extrême. Mais sa douleur a quelque chose de révoltant. Parce que des gens ont presque perdu la vie à cause de lui, etc., etc., n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'alors Joab intervient au début du chapitre 19. Voici le roi pleure, se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil, je suis au verset 2, pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, il criait à haute voix, « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Absalom entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent, tu es ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait, que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. » Lève-toi donc, sors, parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qu'ils sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors, le roi se leva, il s'assit à la porte, on fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. Coup de semence, n'est-ce pas? Si tu continues comme ça, d'ici demain tu ne seras plus roi. Finalement, le temps passe et nous avons À la fin du chapitre 13, les versets 38 et 39, et le tout début du chapitre 14, qui nous donne une indication très intéressante, Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Et le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Et Joab le constate, il s'aperçoit, verset 1er du chapitre 14, que le cœur du roi était porté pour Absalom. Donc nous arrivons à 3 ans après le crime, un changement s'est effectué progressivement avec le temps dans le cœur de David, et Joab décide de faire une mise en scène à l'oriental, je dirais par certains côtés un peu difficile à comprendre pour nous, avec cette femme veuve déguisée qui intervient. Il y a là toute une intrigue qui se met en place, avec un but tout à fait évident, c'est de porter le cœur du roi vers son fils Absalom, de manière à ce que ce dernier puisse réintégrer la capitale et le palais royal, la cour des grands. Nous avons l'intrigue, et au cœur de cette intrigue et de ce dialogue intéressant, un verset clé, très important pour notre compréhension du texte et de cette histoire, c'est le verset 14, chapitre 14, verset 14. « Il nous faut certainement mourir, dit cette femme à David. Nous serons comme des eaux répandues à terre qui ne se rassemblent plus. » Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Bon, reconnaissons que c'est un texte qui est un petit peu difficile à traduire. Il y a diverses manières de comprendre, au point que vous pouvez être dans une version qui le rendra pour la première partie de manière un peu différente. Par exemple, ce qu'on appelle la Bible à la colombe le rend ainsi. Dieu ne relève pas un mort. Mais dans sa pensée, il ne faut pas que celui qui est banni loin de lui le reste. L'idée finalement est la même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas, après toutes ces années, laisser ton fils loin de toi. Ce n'est pas une situation normale. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu le réintègres. Il faut que tu le fasses revenir. Et finalement, après toute cette mise en scène, David découvre la réalité qui se cache derrière elle, et il accepte. En quelque sorte, il succombe au raisonnement qui lui a été habilement présenté de la part de Joab par cette femme habile. Verset 21, le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre, se prosterna, il bénit le roi, puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva, partit pour Geshur, il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi lui dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et donc Absalom est obligé de se retirer dans sa maison. Et il ne voit toujours point la face du roi. Aux 3 premières années qui se sont écoulées s'en ajoute une 4e. Puis finalement une 5e, 5 ans, hein, 5 ans. Essayez de faire un retour en arrière dans votre vie sur ces 5 dernières années. 5 ans. Et donc, verset 28, Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien, il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Quelle habileté! Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva, se rendit auprès d'Absalom dans sa maison, voyez, hein, quand on veut que quelqu'un finisse par nous écouter, il faut utiliser les grands moyens, semble-t-il, d'après ce texte. C'est irrésistible, Joab est obligé de se rappliquer, je suppose qu'il n'est pas très heureux de ce qui vient de lui arriver, et il pose la question, et je suppose qu'il est très irrité, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Sans doute devine-t-il la raison. Et Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Geshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi, lui rapporta cela, le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence, et le roi baisa ou embrassa Absalom. Enfin, un père et un fils sont réconciliés. Il a fallu 5 ans. 5 ans pour que des souvenirs s'estompent, pour que des blessures évoluent, aillent peu à peu vers une cicatrisation. 5 ans pour que des sentiments changent. Et j'ai envie de dire merci David. Merci David pour ta grandeur d'âme. Parce que c'est toujours beau une réconciliation. C'est toujours beau lorsqu'un père et un fils s'embrassent après des années de difficultés et de séparation. Bravo Joab, qui a accepté de se mouiller. Et ce n'est jamais facile dans ces cours royales, tout comme ce n'est pas facile dans les gouvernements, dans les relations entre ministres. Il s'est mouillé. Il a été un pacificateur, un conseiller avisé, un réconciliateur. C'est beau tout cela. Voyez-vous, c'est ainsi que je m'exprimais il y a 35 ans, 36 ans, alors que j'étudiais à l'Institut biblique Emmaüs et que je devais accomplir comme tous mes camarades d'études, la tâche redoutable qui consiste de temps en temps à introduire une journée ou à présenter un exposé biblique à ceux et celles qui sont là, c'est-à-dire les camarades d'une part, et qui généralement sont sans pitié pour les autres, et puis au corps professoral, aux profs qui sont là, au personnel, n'est-ce pas? Et donc j'ai vu mon nom sur la liste, pour un jour, à côté de mon nom de Samuel 13 et 14, et je savais que j'allais bientôt être guillotiné. Et donc ce matin-là, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces juvéniles, j'ai exalté les mérites de Joab, finalement de David, de la femme habile, pour montrer l'importance de la réconciliation, de ne pas tarder à être réconcilié. Je suis encore aujourd'hui, tant d'années plus tard, dans une suprême interrogation face à une énigme que je n'ai jamais réussi à résoudre. L'énigme est la suivante. Personne, ni parmi les élèves, ni dans le personnel, ni parmi les professeurs, n'est venu me voir ensuite pour me tirer les oreilles. Il faut dire qu'elles étaient déjà comme ça. Si on me les avait tirées, ça aurait été peut-être plus grave aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que lorsque j'ai découvert l'erreur fondamentale d'interprétation de ce texte, que j'avais tartiné comme ce matin mon beurre sur le bon pain, Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a pu me laisser partager de telles inepties sans au moins me dire que je m'étais trompé à quelque part? Et je pense que certains d'entre vous étaient en train de se demander, parce que je l'ai voulu ainsi pour des raisons pédagogiques, si l'enseignant n'était pas en train de divaguer quelque peu, puisque sans autre, j'ai décerné un diplôme, un satisfecit, à ces personnages, n'est-ce pas, vous faisant peut-être croire qu'après tout, ils avaient eu raison. Alors détrompez-vous et soyez rassurés et revenez à la prochaine étude, parce que il va de soi que David a commis une faute extrêmement grave. Il faut le dire. Puisque le chapitre 15 commence par la même expression que le chapitre 13, vous avez remarqué, après cela. Comme si, une fois de plus, en inspirant le rédacteur de ce texte, le Saint-Esprit avait voulu nous rendre sensibles au lien de cause à effet, en passant d'un chapitre à l'autre, d'autant plus qu'il n'y avait pas les chapitres. Vous le savez, dans les Bibles anciennes, ce sont des points de repère qui ont été mis en place progressivement, en plusieurs étapes d'ailleurs, pour faciliter notre approche du texte. Après cela. Et il va de soi que nous découvrons donc dans le chapitre 15 que les motivations profondes d'Absalom étaient autres que tout ce que nous aurions pu éventuellement penser. Ce qui l'intéressait, au-delà du bricolage de la réconciliation, c'était de retrouver une place stratégique en un lieu stratégique et de s'emparer du trône. Et en fait, Absalom était l'homme soumis au 11e commandement qui a tant fleuri et qui fleurit tant et encore aujourd'hui, y compris dans l'Église de Jésus-Christ. Et je n'hésite pas à le dire, la fin justifie les moyens. Nous avons parfois aujourd'hui ce qu'on appelle un christianisme très pragmatique, c'est-à-dire où ce qui compte, c'est le résultat. On peut faire n'importe quoi, se lancer dans n'importe quelle action, qu'elle soit morale ou immorale, peu importe, si ça aboutit au résultat escompté, allons-y. Et je dis que cela n'échappe pas au milieu évangélique. Nous avons une évangélisation qui est trop souvent pragmatique, où la fin justifie les moyens, comme si Dieu nous donnait l'autorisation d'évangéliser n'importe comment. L'essentiel, c'est que les gens rencontrent Jésus-Christ. Bien, je suis désolé, la Bible ne dit pas ça. Et il y a dans les Écritures ce que j'appellerais une éthique de l'évangélisation. Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions des choses qui défigurent sa personne, son caractère, la beauté de ses œuvres, et l'évangélisation doit être digne du Dieu qui nous a appelés à être ses témoins. C'est un exemple. Nous pourrions en prendre quantité d'autres, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'on peut se conduire dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui aussi en ressemblant étrangement à Absalom. Même en poursuivant, nous l'avons vu, des objectifs nobles, puisqu'il s'agit du salut de ceux qui nous entourent. Mais ce sont nos motivations qui comptent aux yeux de Dieu. La manière dont nous entreprenons les choses, pas question pour nous d'aller brûler le champ du voisin pour mieux pouvoir lui annoncer l'Évangile. N'est-ce pas? Erreur grave de David. Attitude charnelle. C'est de la faiblesse, en fait. Ce n'est pas de l'amour authentique. Et nous touchons ici du doigt son problème familial, son problème dans sa relation avec ses enfants, son problème dans ses lacunes tellement importantes au niveau de l'éducation de ses enfants. Puisqu'il nous est dit dans un roi, donc un peu plus loin, un roi, chapitre 1er et au verset 6, je vais lire à partir du verset 5, il est question là d'un des fils de David, Adonijah, 1 roi 1, 5 et 6, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, encore une fois l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Il avait des références dans ce domaine. Verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Voilà un texte qui parle, n'est-ce pas? Et le texte hébreu dit littéralement son père n'avait jamais peiné son fils. Je ne veux pas te faire de la peine, mon petit chéri. Je ne veux pas te traumatiser. Les caresses, ça marche. Mais quand la main doit descendre un peu plus bas et caresser un peu plus fort, ça risque tout au plus de faire de toi ce qu'on a appelé un bébé Spock. J'avais entendu parler des bébés Spock. Ce célèbre personnage qui, tout juste après la dernière guerre, a écrit un traité sur l'éducation des enfants qui leur accordait les libertés les plus extraordinaires qui soient. Son bouquin au docteur Benjamin Spock a été publié, mais je ne sais combien de millions d'exemplaires et le nombre d'éditions traduits est arrivé en Europe où il a commencé à faire des dégâts, n'est-ce pas? Et puis, quelques 25 ans plus tard, un journaliste de Paris Match a tendu son micro à ce docteur Benjamin Spock qui avait 25 ans de plus et qui commençait aussi à avoir des petits-enfants. Et le docteur Benjamin Spock a dit « Je me suis trompé. » Parce que ses enfants et ses petits-enfants lui ont craché à la figure après. Et je crois même, et c'est triste et c'est douloureux, que l'un d'entre eux s'est suicidé. Ça, c'est l'histoire biblique. Inutile de connaître Benjamin Spock. Il suffit de lire les Écritures pour voir les résultats. Et ça, c'est le drame. Nous aimons beaucoup David. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. David est un de mes personnages préférés des Écritures. Oh, pour une bonne raison. Il y a les psaumes. Et puis, il y a cette transparence générale de la vie de David. Cette humilité de David, qui a accepté de livrer à des générations et des générations tant de ce qui aurait pu être des secrets, n'est-ce pas, très sombres, de son cœur, de sa vie. Nous l'aimons. Mais nous savons que autant il a été brillant sur le trône, comme administrateur, comme généralissime, comme homme d'art, poète, chantre, il en avait des cordes à son arc. Autant sa vie familiale a été douloureuse, a été un échec. Et ça veut dire aussi que nous devons prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui exercent des ministères en vue. Parce que combien ce qui se passe dans la vie familiale a de répercussions sur la vie publique. Et on sait que toute la fin de la vie de David, même si il a retrouvé la beauté de la grâce de Dieu, n'est-ce pas, et s'il a pu encore vivre des choses extraordinaires, combien pourtant toute la fin de sa vie a été marqué de douleur, conséquence de son péché, pardonné avec une grande perte d'autorité, jusqu'à ce qu'il parte près du Seigneur dans sa 71e année, pour parler un peu suisse encore. De Samuel 14, 14 avons-nous lu, n'est-ce pas? Dieu n'ôte pas la vie. Mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Beau passage. Très beau passage. Passage à quelque part digne de figurer sur un tableau pyrogravé dans une pièce de notre maison. C'est vrai. Mais passage incomplet. Et nous allons là vers le prophète Ézéchiel, au chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Où nous avons un portrait du prophète présenté comme une sentinelle dans son pays. Ézéchiel 33. Et où il est dit au verset 10 et 11 tout d'abord. Et toi, fils de l'homme. Ézéchiel 33, 10 et 11. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, hein? Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il vive. Je pense que c'est ce que vous avez dans votre Bible. Enfin, c'est pas ça. Vous n'avez pas la même Bible que moi. Mais je suis de plus en plus inquiet. C'est qu'il change de conduite. Ah! C'est fou ce que ce verset ressemble à 2 Samuel 14, 14. Et en fait, la différence est là, n'est-ce pas? C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et ceci, le clou est enfoncé, n'est-ce pas, ensuite. Verset 12, « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient son péché... et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. » Quel est le problème? Oh, il est tout simple. Mais nous ne pouvions pas aller plus loin dans ce développement sur le pardon sans contourner cette première borne sur la voie royale du pardon. Joab et David ont escamoté la repentance. Joab et David ont escamoté la repentance. Où est la démarche de repentance d'Absalom? Non seulement il n'y a pas de repentance, mais Absalom pousse l'outrecuidance orgueilleuse jusqu'à justifier son acte. Il le fait, cela apparaît très fort au chapitre 14, vers la fin du chapitre 14, lorsque Joab se précipite chez lui puisque son champ vient de flamber. Verset 32, Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Geshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Nous avons là une radiographie des pensées d'Absalom. C'est un scanner. Son raisonnement le trahit. Il justifie, il dit, mais en fait, je ne suis pas coupable. Qu'il essaye donc de trouver une faute en moi, le roi David. En réalité, je suis le bras justicier de Dieu. Je n'ai fait que pallier aux insuffisances et aux lacunes du gouvernement du royaume. En fait, je suis l'instrument de Dieu. en disant cela, il accuse, il montre du doigt cette lacune dans la vie, dans le fonctionnement royal chez son père. Qu'il essaye donc de trouver une faute. Il n'a pas fait son boulot, puisqu'il n'a pas fait son boulot de roi, eh bien moi j'ai fait son boulot à sa place. Donc non seulement il n'y a pas repentance, mais en fait, il justifie son acte au nom de Dieu, en ayant utilisé pour cela d'ailleurs une méthode répréhensible, nous l'avons vu au verset 30. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une différence extraordinaire entre le baiser et l'étreinte de pur amour entre Absalom et David, et puis les retrouvailles entre le père et le fils prodigue? Quelle différence! Il faut comparer. Il faut comparer. Voilà un fils, le fils cadet, qui a tué son père. Virtuellement, il a tué son père. Quand il a réclamé son héritage, cela signifiait, en langage de l'époque, « Je considère que tu n'es plus en vie ». Au point même que le père l'a très bien compris, parce qu'il n'a pas donné une seule part d'héritage, il a fait le partage. Et vous imaginez la situation du fils, mais aussi la douleur du père. Ce père qui résiste en permanence à l'envie d'envoyer des chèques au fils, ou des colis abondamment garnis. Un père qui souffre en silence, qui compte les jours, qui scrute chaque jour, à la sortie du village, l'horizon lointain, là-bas, là-bas, tout là-bas, au bout du chemin, pour espérer voir enfin se développer un point, tout d'abord tout petit, devenant de plus en plus grand, et reconnaître enfin son fils qui revient. Puis le temps qui passe, la vue qui baisse, les douleurs qui se propagent avec l'âge qui avance. Et puis un jour, enfin, ce père qui a tant souffert dans son cœur, qui voit, qui se demande, qui se frotte les yeux, n'est-ce pas, en se disant, mais est-ce que j'ai un problème dans les yeux ou bien est-ce que c'est vrai? Je vois quelqu'un qui approche, mais dont la démarche n'est pas normale. Il me semble qu'il titube sur le chemin. Il me semble reconnaître mon fils. Et qui alors soulève les pans de sa robe, chose odieuse pour tous les gens de son village, n'est-ce pas? Un homme qui a été bafoué, qui a été enterré vivant, et qui maintenant accepte même de perdre sa dignité traditionnelle en relevant sa tunique pour pouvoir avancer le plus vite possible dans son amour éperdu pour son fils. Et son fils, vous le savez, de lui dire le cœur brisé, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et alors, le père ne le laisse même pas aller plus loin. Il a compris que le cœur de son fils est un cœur brisé, qu'il plaide coupable. Et c'est l'étreinte. C'est le baiser du pardon, c'est la réconciliation. Quel contraste entre ces deux récits à plus de 1000 ans d'intervalle. Voyez-vous, et nous terminerons sur cette pensée, Dieu est toujours animé d'un esprit de pardon. Cela fait partie, nous l'avons dit, de la structure même de son être. C'est inscrit dans les chromosomes de son amour. partie intégrante de sa personne. Mais il ne se laisse fléchir que par une repentance authentique. Dieu n'a pas escamoté la croix. Dieu n'a pas escamoté la mort du Fils bien-aimé sur la croix. Son amour est saint, son amour est juste. Il a fallu la mort du Fils de Dieu. Et si Dieu n'a pas contourné la croix, mais l'a pris volontairement Jésus-Christ de plein fouet dans tout ce qu'elle signifiait, et que nous avons essayé de déployer hier matin, comment pourrait-il maintenant, dans ses relations avec nous, escamoter la repentance? Il ne peut y avoir de pardon à bon marché. Il ne peut y avoir de grâce à bon marché selon la parole de ce résistant allemand, protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit des choses absolument remarquables au fond de son cachot pour avoir osé résister à Hitler et souhaiter sa disparition et qui finalement a été pendu peu de temps avant la fin de la guerre. Et Dietrich Bonhoeffer a notamment écrit ceci dans cette église: le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés, péchés dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu, la négation de l'incarnation de la parole de Dieu. Et un homme de Dieu de notre temps a greffé sur cette parole de la grâce à bon marché, dénoncée par Dietrich Bonhoeffer, cette autre parole: la grâce à bon marché justifie le péché plutôt que le pécheur. Par contre, la vraie grâce justifie le pécheur et non le péché. Pas de réconciliation sans repentance. Pas de pardon sans repentance. Il y a un ordre dans les Écritures. Cet ordre, c'est repentance, pardon, réconciliation. Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est pour cela que nous avons lu, d'ailleurs, ce psaume 130 hier, hein, n'est-ce pas? Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Au début, quand je lisais ce texte, je me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Hein? Le pardon se trouve auprès de toi. On a envie de mettre un complément tout à fait différent. Or, le complément, c'est afin qu'on te craigne. Dans la mesure où nous entrons dans la pensée de Dieu et où nous ne dissocions jamais le pardon de la repentance. Parce que c'est la repentance qui attise en nous ce feu intérieur qui consiste à dire: mais c'est ta majesté, ô Dieu, que j'ai outragé. Tout péché, nous le reverrons, est d'abord outrage à la majesté divine. Et c'est non seulement devant le Père que je viens, même en tant qu'enfant de Dieu, pour plaider coupable. Ce Père reste le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je viens plaider coupable devant sa majesté. Et c'est le fait de devoir se repentir qui développe en nous le profond respect à l'égard de Dieu, de même que notre respect à l'égard de Dieu est attisé lorsque nous voyons ensuite son amour, sa faveur, sa grâce, son pardon se déployer. Pas de pardon sans repentance. Pas de réconciliation sans pardon. Nous allons nous arrêter à ce stade ce matin, mais je dis bien à ce stade. Parce que sur cette base qui est dite d'un bloc, sans la moindre nuance, pour en tirer la première leçon fondamentale, nous allons demain matin greffer un certain nombre d'enseignements qui vont nous présenter les nuances dans ce domaine. Parce que je serais malheureux si tel ou tel d'entre nous, ayant eu des problèmes avec quelqu'un d'autre qui se serait montré coupable à son égard, se précipitait maintenant au téléphone pour lui dire en hurlant « Ben, tant que tu ne te repens pas, hein, et si je te trouve au coin de la rue, on ne voudrait pas ça. Hein. » Mais néanmoins, la vérité demeure. Pas de pardon sans repentance. Pas de réconciliation sans pardon. C'est une vérité qui demeure. Ensuite, à la lumière des Écritures, nous devons l'analyser pour voir comment Dieu nous apprend ces choses, ce qu'il nous dit, les nuances qu'il y met, qui ne relativise rien de cela, mais qui nous permet dans nos relations avec lui d'abord et dans nos relations les uns avec les autres, d'éviter des excès, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, parce que nous sommes prompts aux excès dans ce domaine. Mais nous nous arrêtons là pour maintenant et nous prions. Seigneur, un grand merci de tout notre cœur, de ce que tu as mis dans ta parole, ces séquences de l'histoire de certains personnages. Certaines d'entre elles sont des séquences ô combien lumineuses, encourageantes, bienfaisantes. D'autres sont des séquences sombres, néanmoins nécessaires, parce que reflet de nos propres cœurs, de nos propres tendances. Seigneur, nous te bénissons pour le miroir qu'est ta parole. Miroir sobre, sans complaisance, qui nous montre les turpitudes de notre cœur, mais qui heureusement aussi nous aiguillonne dans notre désir et notre besoin de nous jeter au pied de la croix pour plaider coupable, pour être lavé, purifié, pour être reconstruit, restauré, pour pouvoir croître à la ressemblance de ton Fils bien-aimé. Merci pour 2 Samuel 13, 14, 15. Merci pour tout ce que nous avons pu déjà partager en ton nom et de ta part. Travaille dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas de ces bricoleurs de la réconciliation et que simplement nous restions fidèles à ce que nous dit ta parole. Visite-nous les uns et les autres car tu connais nos besoins à chacun. Nous te bénissons et nous t'aimons de tout notre cœur, notre Dieu, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen.